Bonjour à tout le monde. Nous démarrons l'émission Une heure en Palestine, programmée donc tous les mercredis de 18h à 19h sur Radio Galère. Elle est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Donc aujourd'hui, c'est Palestine 13, branche locale de l'association France-Palestine Solidarité qui anime l'émission. Donc je suis avec Bernard.
Bonjour Jean-Yves.
Je suis donc Jean-Yves. Sidi est aux manettes. Et donc, si vous voulez avoir des renseignements sur nos activités, des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet. Il est mis à jour, il y a en général un article par jour, parfois deux. Donc, www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter notre page Facebook Palestine 13. Et sinon, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse asso@palestine13@gmail.com. Donc aujourd'hui, donc nous allons faire le, je crois que c'est la quatrième ou la cinquième occurrence de la revue de presse que l'on fait avec Bernard une fois par mois, et donc qui nous permet de compiler un certain nombre d'articles qui sont parus dans le mois écoulé, articles qui nous ont paru intéressants. Je vous rappelle, pour ceux qui ont déjà testé ceci, que la liste de tous ces articles de presse va se trouver sur le site de Palestine 13. Donc il y aura un fichier PDF avec quelques informations sur chaque article qui vous permettent d'avoir une idée de leur contenu, et puis un lien direct vers le site où vous allez pouvoir les trouver. Aujourd'hui, on va commencer par une actualité brûlante, hein, dans tous les sens du terme. C'est Gaza. Alors, sur Gaza, les infos sont assez difficiles à obtenir là ces jours-ci, mais vous savez qu'il y a eu une attaque israélienne contre Gaza suite au tir de roquettes du Hamas. Enfin, Israël dit que c'est le Hamas. Le Hamas et le djihad islamique ont dit que ce n'était pas eux, que c'était une initiative individuelle. Donc voilà, et Israël a priori se prépare à amasser des troupes auprès de la frontière avec Gaza. Donc on suppose que ça risque de barder un peu comme ça s'était passé en 2009, en 2014. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Hein. Et donc le Hamas a dit qu'il y avait un cessez-le-feu. Par contre, Israël a démenti. J'ai vu passer un mail ce matin comme quoi Israël démentait qu'il y avait un cessez-le-feu. Alors je passe tout de suite la parole à Bernard qui a récupéré un article sur Gaza.
Oui, c'est une communication de l'agence Reuters. Donc les frappes de l'armée israélienne sur Gaza le 25 mars en réponse à un tir de roquette sur Tel Aviv attribué au Hamas. Dans la nuit de lundi à mardi, Israël a poursuivi ses frappes contre des cibles attribuées au Hamas dans la bande de Gaza, d'où une trentaine de roquettes ont été tirées. Deux images simultanées ont dominé les écrans israéliens en fin d'après-midi, lundi 25 mars. La première était celle du Premier ministre Benjamin Netanyahou, reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président des États-Unis a signé la proclamation reconnaissant la souveraineté de l'État hébreu sur le plateau du Golan, annexé en 1981. Mais l'euphorie n'était pas vraiment de mise, malgré ce cadeau politique fait à Israël, après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale. Une nouvelle fois, la menace d'une escalade se dessinait sur la bande de Gaza, au terme d'une journée débutée par un tir de roquettes vers l'agglomération de Tel Aviv. Pendant que les deux dirigeants se rencontraient à Washington, les avions de chasse et les hélicoptères survolaient le territoire palestinien, frappant des dizaines de cibles attribuées au Hamas, notamment dans la ville de Gaza, aux rues désertées. Un immeuble de 3 étages y a été détruit dans le quartier de Tzabra. Il s'agissait du quartier général secret des services de renseignement militaire et civil du mouvement islamique, a précisé l'armée israélienne dans un communiqué. Celle-ci a aussi revendiqué une frappe sur un bâtiment de 5 étages dans le quartier de Rimal, qui aurait servi à des fins militaires. Les médias palestiniens rapportaient dans la soirée que les locaux du chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, avaient été aussi visés. Un message politique clair et non la volonté de l'assassiner, tous les dirigeants du mouvement islamiste étant à l'abri dans la perspective des frappes israéliennes. Pendant ce temps, à Tel Aviv, comme dans d'autres villes côtières, la municipalité ordonnait l'ouverture de tous les abris publics anti-bombes dans la crainte d'une escalade nocturne. Les factions palestiniennes ont déclenché des tirs de roquettes de courte portée vers les communautés israéliennes frontalières. Vers 22h, le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, annonçait qu'un cessez-le-feu avait été conclu par l'intermédiaire de l'Égypte, le médiateur habituel. Comme le 14 mars dernier, ou bien le 21 juillet et le 29 mars 2018, journée marquée par des épisodes de violence brefs et intenses, au même moment pourtant, l'armée israélienne publiait un communiqué où elle affirmait qu'elle continuait à frapper Gaza. Une quinzaine de sites supplémentaires étaient frappés au nord de la bande, appartenant au Hamas ou au djihad islamique. Côté palestinien, une 30aine de roquettes supplémentaires étaient tirées, interceptées par le système dôme de fer ou tombées dans des champs. Le cessez-le-feu tient, assuré au Monde, mardi matin, Ghazi Hamad, haut responsable du Hamas. Bien qu'un calme précaire soit revenu mardi matin à l'aube, l'armée a interdit tout rassemblement en intérieur de plus de 300 personnes dans les villes israéliennes proches de Gaza, et les écoles ne devaient pas ouvrir et les services publics étaient limités. On le voit, chaque fois qu'un incident de ce style a lieu, avec quelques bombes ou quelques roquettes envoyées sur Israël, la réplique est d'une telle disproportion qu'elle devrait alarmer le monde entier. Vu le feu qui a saisi Gaza dans la nuit, mais malheureusement, on assiste à un silence total.
Donc les choses ne devraient pas s'arranger, puisque donc les roquettes qui ont été envoyées sur Israël dans la nuit, donc c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on atteint la ville de Tel Aviv, on fait 7 blessés, donc en général il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, etc. Donc la réponse est rarement proportionnée, la réponse d'Israël. Donc dans le cas où il y a des blessés, on imagine que ça va barder encore plus. D'autant plus que Israël est en période électorale, Netanyahou est très, très ennuyé puisqu'il a des casseroles qu'il traîne derrière et qui lui valent certainement d'être mis en... de passer en procès. Donc voilà, il est affaibli et il compte peut-être sur cette manifestation de force qui est en train de se préparer pour gagner les élections. Voilà. Alors, les Gazaouis donc sont vraiment dans une situation extrêmement précaire, hein, surtout que donc il y a une situation humanitaire très très précaire, mais il y a aussi donc des gens qui manifestent, hein, dans la bande de Gaza. En fait, il y a un mécontentement social qui est relativement rare dans ce territoire, puisque le mouvement islamiste du Hamas contrôle relativement bien ce qui se passe. Et des membres des forces de sécurité ont mis fin à des rassemblements auxquels avaient pris part des dizaines de personnes dans le nord de l'enclave de Gaza. Et un porte-parole du Hamas a indiqué aux médias palestiniens que la manifestation avait eu lieu sans autorisation. Donc on n'a pas trop d'infos sur ce qui se passe de ce point de vue-là. Ça, c'était une information donnée par I24 News. Voilà. Par contre, donc, tous les cris d'alarme sur la situation à Gaza ne font pas réagir le gouvernement israélien. C'est la Fondation Caritas International qui lance un appel pressant à aider les Palestiniens de la bande de Gaza. On trouve beaucoup d'articles concernant cette catastrophe sanitaire. Sur Agence Média Palestine, on trouve un article de Tarek Loubani, une catastrophe sanitaire délibérément entretenue à Gaza. Donc c'est un entretien avec le docteur Tarek Loubani, qui est de passage à Paris dans le cadre d'une tournée d'information. C'est un médecin urgentiste canado-palestinien, professeur à la Western University en Ontario. Et en fait, il réagit au rapport des Nations Unies, dont nous parlera Bernard tout à l'heure. Rapport des Nations Unies qui, sur les crimes commis durant la Grande Marche du Retour. Donc il décrit, donc, toujours Tarek Loubani, il décrit une situation humanitaire désastreuse et c'est un des meilleurs connaisseurs de la situation intérieure dans la bande de Gaza où il s'est rendu à plus de 25 reprises. Les patients souffrent de maladies chroniques, affections rénales, diabète. Donc on manque d'équipements appropriés, pas de machines à dialyse. Des médicaments nécessaires pour gérer ces pathologies. Les patients atteints d'un cancer restent complètement soumis aux caprices de l'appareil israélien qui est accusé d'échanger l'accès des patients cancéreux à un traitement vital, bien sûr, contre des renseignements et des interrogatoires de ces patients. Ils les font patienter au point de contrôle israélien et en cherchant à leur soutirer des renseignements sur le Hamas, sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Donc le blocus qui dure depuis bientôt 12 ans empêche tout ce qui est médicaments essentiels, équipements médicaux d'entrer dans Gaza, en plus des besoins en construction, etc., du pétrole pour la centrale électrique. Donc il empêche le personnel de santé de voyager librement pour se former. Et le personnel de santé international, comme le docteur Tarek Loubani, de voyager librement pour fournir des soins et des formations dans Gaza. Donc ce contrôle dégrade aussi l'infrastructure essentielle dont tout système de santé a besoin pour survivre, comme l'électricité ou l'eau potable. Donc c'est toujours Tarek Loubani qui parle. J'ai été témoin de tirs très rapprochés par des snipers israéliens contre des civils. Et ensuite, j'ai dû soigner leurs blessures avec le personnel médical des services d'urgence. Tous les patients que j'ai traités avaient été blessés par des balles réelles, même si, évidemment, un grand nombre l'était aussi par l'utilisation massive de gaz lacrymogène. On pense qu'il y a plus de 2000 blessés, 200 morts à Gaza depuis un an que les marches du retour se poursuivent tous les vendredis. Donc voilà, par contre, une commission de l'ONU a reconnu qu'Israël pourrait être coupable de crimes contre l'humanité à Gaza. Donc
oui,
je laisse la parole à Bernard.
En effet, l'ONU a délégué une commission sur les lieux et son président, Santiago Cantón, a déclaré « Les soldats israéliens ont commis des violations du droit international humanitaire et des droits humains. Certaines de ces violations peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité et doivent immédiatement faire l'objet d'une enquête par Israël. » Alors évidemment, si on entend qu'Israël enquête sur ses propres catastrophes ou ses propres violations, on peut attendre longtemps. Donc selon la commission de l'ONU, plus de 6000 manifestants non armés ont été touchés par des tireurs d'élite militaire semaine après semaine lors des manifestations. Les enquêteurs ont indiqué avoir trouvé des motifs raisonnables de croire que des tireurs d'élite israéliens ont tiré sur des journalistes, du personnel de santé, des enfants et des personnes handicapées, sachant qu'ils étaient clairement reconnaissables comme tels. La commission a été mise sur pied en mai 2018 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour enquêter sur les violations et mauvais traitements présumés dans le contexte des assauts militaires menés lors des grandes manifestations civiles qui ont commencé le 30 mars 2018 à Gaza. À partir du 30 mars 2018, des dizaines de milliers de Palestiniens de la bande de Gaza, territoire coincé entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée, se sont rassemblés chaque semaine près de la frontière pour la marche du retour, qui revendique le droit des Palestiniens à retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fui à la création de l'État d'Israël en 1948. Un mouvement civil et non des combats militaires, selon l'ONU, Israël n'a cessé de proclamer que cette protestation massive était orchestrée par le Hamas, mouvement islamiste qui dirige la bande de Gaza et auquel il a livré 3 guerres depuis 2008. Mais pour les enquêteurs de l'ONU, les manifestations étaient de nature civile, avec des objectifs politiques clairement énoncés, et malgré certains actes de violence importants, la commission a estimé que les manifestations ne constituaient pas des combats ou des campagnes militaires. En effet, c'est important de signaler que c'est le Hamas qui s'est... il a surtout essayé de récupérer ses marches quand il a vu que c'était la société civile qui les avait organisées. C'est-à-dire que c'est un peu un principe général de la politique, ça. La société civile se met en marche. Et les politiques ou la politique essaie par tous les moyens de récupérer ces actions ou ces manifestations.
On a vu aussi, comme exemple flagrant de ce que tu viens de dire, c'est le cas de la jeune infirmière là, qui avait été tuée. Voilà. Donc, et ses parents avaient fait une tournée en France. Donc, j'ai trouvé dans AgriMaroc... un site, donc www.agrimaroc.ma, un article sur Gaza, encore, disant que les exportations de fraises bondissent de 290%. Ils se sont spécialisés dans la culture des fraises. Donc ça montre bien la résilience de la société gazaoui. Hein. Malgré le manque d'eau, les problèmes qu'ils ont, ils arrivent à être de plus en plus performants. Autre information qui va peut-être faire changer les choses, on n'en sait rien, hein. Un site chinois, le 26 février, j'ai trouvé un article disant « La crise sanitaire à Gaza pourrait entraîner une épidémie en Israël ». Donc on a déjà entendu parler des pollutions de la mer au-dessus de la bande de Gaza, en Israël. Les Israéliens commencent à se plaindre, hein, donc les choses ne vont pas s'arranger à partir du moment où il n'y a pas d'électricité pour retraiter l'eau, etc. Donc voilà, si en plus il y a des épidémies et des contaminations, donc c'est un reportage qui a été publié mardi, donc c'était au mois de février, dans le quotidien en langue hébraïque Yediot Aharonot. Voilà. Et effectivement, c'est difficile d'arrêter des moustiques porteurs de maladies avec une barrière de sécurité. Hein, donc, ils n'ont pas encore trouvé comment s'en débarrasser. Donc voilà, nous allons passer une musique de Férouz, le premier intermède musical. Donc Férouz avec un titre de circonstance, Bridge of Return, le pont du retour. Donc. Thank you.
الخشبية يسبح فوق النهر ضحك الفجر وحيا وصحت قمم الزهر يا جسرا خشبية 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 صحت قمم الزهر يا جسرا خشبية 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 لونك فرح الماء وبك العطر يجن شابك أفيا تحت الخطو تئن لونك فرح الماء وبك العطر يجن أخشابك أفيا تحت الخطو تئن وبصمت وصفاء ضحك الفجر وحي وصحت قمم الزهر يا جسرا خشبية خشبية خشبية
Donc nous continuons. Ah pardon, j'ai oublié de prendre le micro. Donc nous continuons. Et donc Bernard va nous parler d'un article qu'il a trouvé dans Le Monde de Jean-Pierre Filiu à propos de paroles qu'a prononcé Netanyahou. Donc je lui laisse la parole. Alors, tu l'as pas trouvé. C'est Netanyahou qui dénature la campagne électorale en martelant que l'opposition israélienne serait prisonnière des partis arabes.
Voilà. Et Filiu ajoute « Jamais Israël n'a connu une campagne aussi violente que celle en cours pour les législatives du 9 avril. Benjamin Netanyahou, à la tête du gouvernement depuis 10 ans d'affilée, après 3 ans lors d'un premier mandat, n'a jamais reculé devant les amalgames les plus douteux pour demeurer au pouvoir. » La triple procédure d'inculpation pour corruption récemment lancée à son encontre l'a cependant poussé à se surpasser lui-même dans la surenchère démagogique, en ciblant cette fois de manière systématique les citoyens arabes, qui représentent 1/5 de l'électorat. Il s'agit avant tout de stigmatiser les électeurs arabes. Dès sa première campagne en 1996, couronnée par son élection surprise face à Shimon Peres, Netanyahou avait mobilisé sa base électorale, surtout dans les milieux ultra-orthodoxes, avec le slogan « Netanyahou est bon pour les Juifs ». Pardon. Pour les Juifs et non pour les Israéliens, une transgression fondamentale dans un pays dont la déclaration d'indépendance en 1948 proclamait l'égalité entre tous les citoyens, qu'ils soient juifs ou arabes. Depuis son retour à la tête du gouvernement en 2009, Netanyahou n'a cessé de durcir son discours sur cette question à la mesure de la dérive de ses propres alliances vers l'extrême droite. Le jour même du précédent scrutin législatif, en 2015, il lance sur les réseaux sociaux « Les Arabes viennent voter en masse, transportés par des bus, des ONG de gauche ». La liste unifiée, présentée par 3 formations dites arabes et le Front, hérité du Parti communiste, traditionnellement binational, remportait alors 13 sièges à Knesset, où elle se situe dans une opposition résolue au Premier ministre et à sa politique. Le score des partis arabes aux dernières législatives a beau être le plus élevé de leur histoire, il n'atteint qu'un 1/10 de la représentation parlementaire, alors que l'électorat arabe en Israël pèse globalement le double. La raison d'un écart aussi important réside moins dans la participation, relativement plus faible de l'électorat arabe, que dans le ralliement d'une grande partie de ses électeurs à des partis que Netanyahou qualifiait de juifs. En clair, de très nombreux citoyens arabes d'Israël votent non seulement pour la gauche travailliste, mais aussi au centre et à droite, y compris pour le Likoud, le parti du Premier ministre. La stigmatisation d'une partie de ses compatriotes n'en est que plus nauséabonde. L'Anti-Defamation League, une des plus anciennes organisations de lutte contre l'antisémitisme, a cru d'ailleurs nécessaire de s'élever contre une rhétorique qui diabolise la population arabe minoritaire en Israël. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, pourtant un pilier historique du Likoud, a eu beau rappeler que nous sommes tous égaux dans l'isoloir, Netanyahou a affirmé sur les réseaux sociaux qu'Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens, tout en reconnaissant à ses compatriotes arabes les mêmes droits que pour nous tous. Le Premier ministre introduit dès lors une distinction inédite entre d'une part l'égalité des droits dans la vie quotidienne et d'autre part la valeur différente d'un vote engageant l'avenir d'Israël selon que ce vote émane d'un électeur juif ou arabe. Il se présente ainsi à ses futurs électeurs comme la cible d'un vaste complot associant aux Arabes la gauche, la justice, la presse, la police et les ONG toutes liguées contre lui, le seul et unique défenseur des intérêts juifs et exclusivement juifs. C'est bien la première fois de l'histoire d'Israël qu'un Premier ministre affirme que la seule alternative à son gouvernement est arabe, ou au moins dépendante des citoyens arabes du pays. Pour conclure, la démagogie n'a pas de limite.
Bien, donc, à propos de colonisation et d'occupation, puisqu'il faut bien, dire, donc, appeler les choses par leur nom, j'ai trouvé un article donc, dans l'Humanité sur la Palestine. Business France prise la main dans le sac colonial. Business France, il me semble bien que c'est l'organisme dont s'occupait notre ministre du Travail, je crois, et puis qui avait magouillé avec M. Macron à propos des paiements d'une manifestation aux États-Unis. Bon, passons, ça ne concerne que les Français. Donc c'est une agence publique, Business France, qui est française et qui dépend du Quai d'Orsay et du ministère des Finances. Et elle fait la promotion de la construction du tramway à Jérusalem-Est. Donc encore une fois, la France viole le droit international à rebours de tous les discours convenus qui ne convainquent bien sûr que ceux qui veulent bien y croire. Donc ça, c'était dans l'Humanité. Donc, autre article qui concerne l'occupation et la colonisation. Au sud de la Cisjordanie, une histoire d'eau tristement banale. Donc, le sud de la Cisjordanie, en fait, il fait partie de la zone C, c'est-à-dire sous administration civile et militaire israélienne. Et des hameaux isolés, donc de Cisjordanie, ont assisté impuissants à la destruction de canalisations d'eau. En 2018, donc en septembre 2018, il y avait des... c'est l'armée israélienne, voilà, qui a coupé les canalisations. Ils ont arraché des centaines de mètres de tuyaux qui approvisionnaient les 12 hameaux depuis septembre 2018. Donc ça s'est passé le 13 février. Justification classique, ce sont des structures illégales, il n'y a pas de permis préalable accordé. Forcément, le gouvernement israélien a classé ces collines comme zone de tir 918, zone à usage militaire, sans aucune autorisation de construire quoi que ce soit pour les Palestiniens. Donc c'est l'un des moyens administratifs employés par Israël pour empêcher le développement des communautés non juives en zone C. Les habitants, donc, ils vivaient déjà ici au XIXe siècle. Ils ne sont pas enregistrés comme résidents. Ils vivaient dans des caves naturelles. Si les Palestiniens de Cisjordanie sont discriminés et privés de leurs droits élémentaires, ceux du sud du territoire, collés à la ligne verte de démarcation, donc la ligne verte, c'est la limite de 1948, ils cumulent les handicaps. Difficile d'imaginer ce qu'a représenté pour eux l'installation des canalisations et la réhabilitation des réservoirs d'eau, grâce à 300 000 dollars de fonds onusiens et l'implication de l'ONG Action contre la faim. Je n'ai pas eu d'infos comme quoi l'ONU est râlé contre cette destruction. Voilà, donc j'ai trouvé un article long et très fouillé de David Hurst, rédacteur en chef de Middle East Eye, Les seigneurs de la terre, pourquoi la victoire d'Israël ne durera pas. Je vous laisserai le lire, vraiment très intéressant. Il s'appuie sur différents témoignages et sur l'histoire, et il prédit que la victoire actuelle d'Israël n'est qu'un trompe-l'œil. Le concept de solution à deux États constitue une fiction commode pour les sionistes libéraux. Pour d'autres historiens israéliens, comme Ilan Pappé, il n'y a jamais eu réellement d'intention israélienne de créer un État palestinien à Oslo. Donc voilà, acte de terreur juive ciblant des Palestiniens, donc ce sont des agressions des colons contre les Palestiniens, elles ont triplé en 2018. Et pour couronner le tout, des récits de torture dans les prisons israéliennes. On connaissait déjà, on a beaucoup entendu parler des enfants qui sont arrêtés la nuit, on vient les chercher, on les emmène en leur bandant les yeux, en les bâillonnant, etc. Ils sont entourés par une dizaine, voire plus de militaires surarmés. Actuellement, on pense qu'il y a 5500 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, dont 230 enfants et 54 femmes. 481 prisonniers sont détenus sans jugement, selon la pratique israélienne de la détention administrative. Voilà. Donc, autre façon de s'attaquer à la société israélienne, à la société palestinienne, c'est aussi de démolir des maisons et démanteler en fait tout ce qui fait la Palestine. Je suis en train de rechercher un article. Donc voilà. Alors j'ai trouvé un article aussi qui montre que en fait il y a actuellement, vous savez, des manifestations, il y en a en France, mais il y en a aussi en Algérie. Et les Algériens, donc, sont solidaires de la Palestine. Hein, de nombreux drapeaux palestiniens apparaissent dans les manifestations en Algérie. En fait, ils manifestent contre le cinquième mandat de Bouteflika. On ne sait pas comment ça va se terminer, pour une vraie démocratie, mais ils n'oublient pas la Palestine. On peut le voir dans leurs chants, leurs slogans et les drapeaux palestiniens qui fleurissent. Donc nous allons écouter une musique de Cheb Khaled, La Liberté.
خلوني ليل نبكي يا رايدة ليل ليل
Donc, les USA, donc, qui ont montré leur hostilité envers les Palestiniens, hein, en soutenant totalement, même au-delà, Israël dans son refus de respecter le droit international, ont utilisé un nouveau changement de terminologie. Donc, le dernier rapport annuel sur les droits humains, alors, des États-Unis. Hein. Les États-Unis, on se demande s'ils ont vraiment le respect des droits humains. Confirme l'intitulé qui a été retenu en 2018 pour le chapitre consacré à Israël, Golan, Cisjordanie et Gaza. Donc au lieu d'Israël et les territoires occupés qui étaient employés jusqu'alors. Donc aujourd'hui, on parle Israël, Golan, Cisjordanie et Gaza. Donc le rapport 2019 ne parle plus non plus du Golan syrien comme d'un territoire occupé par Israël, mais d'un territoire contrôlé par Israël. Donc les États-Unis sont en train de donner finalement à Israël, de quel droit, hein, on se demande, sont en train de donner le Golan à Israël au risque de mettre encore plus le feu à cette partie du Moyen-Orient. Donc voilà, on va enchaîner sur certaines donc, des informations concernant l'Eurovision, donc, qui est prévue pour le mois de mai.
Oui, alors BDS France a fait un communiqué très éclairant et très intéressant qui nous prouve qu'on entre dans un moment plutôt incroyable de la part des autorités israéliennes, mais des choses qui risquent, à mon avis, aussi un peu de bouger ou d'exploser. En effet, Israël lutte à la fois contre les appels au boycott de l'Eurovision sur son territoire, mais également contre ce qui pourrait être chanté pendant cette soirée. En effet, les trois membres du groupe représentant l'Islande à la 64e édition du concours européen de la chanson, européen, hein, Israël est en Europe, hein, tout le monde le sait, pourraient être interdits d'accès au territoire israélien en raison de leur prise de position pro-palestinienne. À plusieurs reprises, Clemens Hannigan, Matthias Haraldsson et Einar Stefansson, les trois membres du groupe, ont ouvertement exprimé leur soutien au peuple palestinien et justifié leur candidature pour participer au concours à Tel Aviv par leur volonté d'incarner leurs idées. Ils rappellent qu'ils ont signé un contrat qui stipule qu'ils ne sont pas autorisés à faire de la politique durant la compétition, a confié le chanteur à Independent. Mais si quelqu'un pense pouvoir se rendre à Tel Aviv sans exprimer un message politique, il a totalement tort. C'est un paradoxe. Toutes les chansons qui seront interprétées durant le concours heurteront la sensibilité de beaucoup de gens à cause du contexte dans lequel il va se dérouler et des critiques légitimes que beaucoup expriment. Le chanteur ajoute qu'aucun artiste ne pourra se produire sur la scène de la Convention Center de Tel Aviv sans enfreindre les règles de l'Eurovision. Vous ne pouvez pas complètement vous taire sur la situation en Israël parce que le silence est également un positionnement politique, a-t-il déclaré. Outre leur soutien à la Palestine, le trio s'est livré à quelques provocations à l'encontre du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, en l'invitant à un combat de glima de la lutte traditionnelle islandaise. Voilà, mais c'est bien de là on touche du doigt le truc que je veux injurier personne de la schizophrénie de l'État d'Israël. Il veut en même temps empêcher la contestation de l'Eurovision sur son territoire à cause de la question palestinienne, et en même temps il veut contrôler ce que les chanteurs qui viennent vont chanter, parce que on n'a pas le droit de dire du mal de l'État d'Israël quand on est au micro de l'Eurovision. Non, c'est à mourir de rire. C'est triste, mais c'est quand même à mourir de rire. Voilà.
Donc aujourd'hui, c'est le jour des hommages à ceux qui soutiennent le peuple palestinien. Donc on a eu tout à l'heure Cheb Khaled à propos de l'Algérie. Maintenant, on va quand même écouter un petit morceau de ce groupe, Hariri. Donc je ne vous dirai pas le titre parce que je ne parle pas l'islandais, mais voilà, je vous laisse écouter.
Hatrið mun sigra. Hatari.
Donc, on reprend. Avant d'oublier les actualités de la région, hein, donc, une manifestation est prévue samedi. Donc samedi, nous serons le 30 mars, à partir de 18h au mobile, donc c'est en haut de la Canebière, près du métro réformé. Un rassemblement silencieux est prévu avec pour mot d'ordre « Droit au retour pour les Palestiniens et halte au massacre du peuple palestinien ». Cette manifestation prévue avant les frappes sur Gaza donc prend d'autant plus d'importance. Donc n'oubliez pas, c'est BDS Marseille et Palestine 13, avec le soutien du collectif Palestine en résistance, vous invite à ce rassemblement. Donc pour le droit au retour des Palestiniens et le halte au massacre du peuple palestinien. Autre information sur une manifestation qui se passera vendredi à partir de 19h au polygone étoilé, un rue Massabo dans le 2e arrondissement. Donc c'est toujours le collectif Palestine en résistance qui propose la projection suivie d'un débat du film de Muriel Yacoub, « La clé du sol », d'après le livre d'Annie Fior, « La grande marche du retour ». Donc voilà, ce film et ce livre seront les stars de cette manifestation. Donc vendredi 29 mars à partir de 19h au Polygone étoilé. Donc... Bernard va nous parler encore de quelque chose qui s'est passé en France, entre guillemets.
Oui, que j'ai découvert sur le site du Figaro International. Il s'agit de la fermeture du centre culturel Chateaubriand, jeudi matin, pour empêcher la tenue d'une exposition de femmes palestiniennes. La France a convoqué vendredi le chargé d'affaires israélien à Paris. Hein, le chargé d'affaires. On ne convoque pas l'ambassade, là, on convoque le chargé d'affaires. Donc la police israélienne a surgi jeudi matin dans les locaux de l'Institut français Chateaubriand à Jérusalem-Est pour empêcher la tenue dans l'après-midi d'une exposition-vente d'objets artisanaux confectionnés par des femmes de la ville. Le centre culturel, qui dépend du réseau diplomatique français, a été évacué et fermé. Un avis placardé sur la porte d'entrée indiquait que le lieu était clos jusqu'à nouvel ordre. L'Institut Chateaubriand avait prévu d'inviter à l'occasion de la fête des mères, qui est célébrée en Palestine le 21 mars, l'association Jeunes Filles de Jérusalem pour un rendez-vous caritatif. Une initiative jugée intempestive par les autorités israéliennes qui surveillent de très près les activités des ONG et des organismes internationaux dans cette partie de la ville occupée depuis 1967 et annexée par l'État hébreu. La police israélienne reproche aux jeunes filles de Jérusalem d'être liées à l'autorité palestinienne. Selon l'association citée par l'AFP, sa directrice est une bénévole venue sur place préparer l'événement et ont été brièvement interpellées. Des femmes palestiniennes ont qualifié de mensonges les accusations de financement par l'autorité palestinienne jugées illégales par les autorités israéliennes. Le consul français, Pierre Cochard, s'est immédiatement rendu sur les lieux. Le consul de France a élevé une protestation contre ce qu'il considère comme une intrusion dans une enceinte appartenant au réseau diplomatique et culturel de la France. Le centre a pu reprendre ses activités dans l'après-midi et il est à nouveau ouvert au public. Vous remarquerez que le consul a élevé une protestation, hein, mais que cette protestation n'arrive pas jusqu'à nos oreilles, elle reste circonscrite à l'espace israélien, et les parlementaires français n'en font pas état. Ce vendredi, donc, la France a convoqué le chargé d'affaires israélien à Paris. De tels agissements représentent une atteinte grave et inadmissible au fonctionnement de notre réseau culturel à Jérusalem. Le chargé d'affaires israélien à Paris a été convoqué au Quai d'Orsay sur ce sujet afin de procéder aux mises au point nécessaires, a indiqué le ministère dans un communiqué, là aussi, dans le plus grand secret. Ça n'a pas du tout irrigué les médias, du tout. La France entend maintenir et développer des relations denses et anciennes qu'elle entretient avec la société civile palestinienne, mais on dirait que c'est des relations honteuses, tellement elles sont cachées et jamais mises en avant. Précise le texte en référence à l'événement que les forces israéliennes ont fait annuler une manifestation culturelle avec des Palestiniennes. Voilà, il s'agissait d'une mise au point du ministère des Affaires étrangères français.
Alors, dans les deux dernières revues de presse, on avait parlé des problèmes d'antisionisme, antisémitisme, etc. La polémique s'est un peu calmée, au moins dans les médias. Sauf qu'il y a quand même un événement récent qui met en lumière l'attitude de certains éditorialistes, on va dire, dans la société française vis-à-vis du racisme. J'ai retenu un blog de Mediapart écrit par Frédéric Debony qu'il a intitulé « Alain Finkielkraut, Renaud Camus et le poids des mots ». Donc on a un sympathique Australien d'extrême droite qui a assassiné en Nouvelle-Zélande une cinquantaine de musulmans. Est-ce qu'il est un lecteur de Renaud Camus qui a théorisé le grand remplacement? Grand remplacement, donc, qui dit que en fait, il y a un complot qui vise à remplacer la population française par une population musulmane. Donc, un délire manifeste qui est soutenu par un certain nombre de philosophes, éditorialistes. Bon, voilà. On se souvient qu'il y a un Norvégien qui reprochait aux cibles qu'il avait tuées d'exposer son pays au multiculturalisme et à l'islam. Dans son manifeste, il citait Alain Finkielkraut, reprenant son affirmation que l'antiracisme serait au 21e siècle ce que le communisme fut au 20e, une source de violence. Renaud Camus est l'une des inspirations majeures de Finkielkraut. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. Donc dans son livre en 2015, La seule exactitude, il prenait un peu distance avec l'expression de grand remplacement cher à Camus, disant « Je ne la reprends pas à mon compte car elle a immanquablement pour effet de transformer toutes les personnes d'origine turque ou arabe en envahisseurs. » Mais à côté de ça, il affirmait en octobre 2017 sur Radio RCJ que le remplacisme global était dénoncé à juste titre par Renaud Camus. Finalement, ça ne le dérangeait pas trop, ce concept. C'est un individu dont l'attitude, c'est quelqu'un qui se dit intellectuel, donc son attitude déshonore la France, même bien sûr s'il ne porte pas de responsabilité directe dans ce qui s'est passé à Christchurch. Par ses écrits et par ses paroles, il pèse quand même sur ce qui se passe après dans la société. On a vu qu'en Israël, par exemple, Yitzhak Rabin avait été assassiné par quelqu'un qui avait écouté des rabbins qui appelaient à la mort de Rabin. Voilà. Hein. Il faut faire attention à ce que l'on dit, surtout quand on se dit intellectuel. En passant, je voudrais faire une remarque. On entend souvent les chroniqueurs médiatiques qui reçoivent des musulmans ou des responsables d'associations culturelles ou autres, en leur intimant l'ordre, donc en quelque sorte, de dénoncer les actes terroristes qui sont commis par des islamistes. Je n'ai pas vu passer d'informations comme quoi ces mêmes éditorialistes auraient demandé à Finkielkraut de dénoncer cet acte, l'intimant de le dénoncer suite aux paroles que lui-même avait prononcées. Donc voilà, on voit bien que idéologie et violence ont partie liées. Voilà donc pour ce qui concerne. J'ai trouvé d'autres articles dans l'Humanité, un autre article dans l'Humanité, un urgentiste qui fabrique, c'est toujours Tarek Loubani, qui fabrique des stéthoscopes 3D grâce à des imprimantes tridimensionnelles. Donc on sait que À Gaza, il manque de beaucoup de choses. Et en fait, le stéthoscope, il va coûter quelques euros au lieu de quelques centaines d'euros. La différence est vraiment très importante. Netanyahou a réaffirmé qu'Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens. Être l'État de tous ses citoyens, c'est, il me semble, la définition d'une démocratie. Donc Netanyahou confirme ce que l'on avait compris il y a peu, c'est qu'Israël n'est plus une démocratie, s'il ne l'a jamais été, bien entendu.
Mais à travers ça, on peut imaginer ce qui se passerait dans un seul État.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faudrait, en Afrique du Sud, ils estiment à peu près à 3 générations, hein, pour arriver à un État qui soit vraiment démocratique, de
mais
ce point de vue-là.
Il faudrait bien commencer.
Oui, il faut commencer, mais avec ces déclarations, cette façon de distiller la haine dans la société, on imagine ce que serait un État, Israël-Palestine, un seul État fédéral.
Pour l'instant, oui. Bon, enfin, ouais. Encore que ça revient pratiquement au même, puisqu'Israël contrôle tout. Au revoir et à bientôt. Merci Sidi. Binti Shalom.